En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 9 décembre 2005, l'Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques, la MOPA, organisait à l'Institut de France un important colloque sur les dictionnaires français, une pérennité prestigieuse et des métamorphoses pionnières. Canal Académie vous propose d'écouter successivement Monsieur Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, président de la Commission générale de terminologie et de néologie, sur l'enrichissement de la langue française. Ensuite, vous pourrez écouter M. Jean Pruvot, directeur du laboratoire CNRS Médatif, professeur de linguistique à l'Université de Cergy-Pontoise. Puis en troisième intervention, vous pourrez écouter M. Louis Forestier, professeur émérite à la Sorbonne, sur les écrivains et les dictionnaires. Et enfin, en quatrième intervention, M. Aurélien Boivin, professeur de littérature à l'Université Laval de Québec, sur les dictionnaires des œuvres du Québec. Dans l'ordre, et commençons donc par écouter M. Gabriel de Breuil, de l'Académie française, qui parle de l'enrichissement de la langue française et bien sûr du dictionnaire de l'Académie française. Nous l'écoutons.
Monsieur le Président, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je suis très heureux de me trouver aujourd'hui présent à ce colloque, mais pour vous faire une communication qui n'aura pas le caractère scientifique de celle que vous allez entendre tout au long de la journée, et qui peut-être est un peu prématurée, je vous expliquerai pourquoi. Comparer ou rapprocher le dictionnaire de l'Académie française et ce dispositif que la législation appelle l'enrichissement de la langue française, c'est-à-dire les travaux de terminologie et de néologie prévus par la loi de 1994 et le décret d'application pour donner des équivalents français à toutes les réalités, toutes les notions, au fur et à mesure qu'elles apparaissent, et le plus souvent, elles apparaissent en langue étrangère et en américain. C'est un sujet qui, je crois, n'avait jamais été traité de manière précise. Et d'ailleurs, il y a peut-être une raison, c'est que c'est un sujet récent et pour lequel on manque de la documentation nécessaire pour en faire un examen exhaustif. C'est un premier examen qui a été fait à l'occasion de ce colloque par le service du dictionnaire de l'Académie française et par le secrétariat de la Commission générale de terminologie. Et donc, je vais vous présenter beaucoup plus un témoignage personnel qu'une analyse scientifique de la comparaison entre le dictionnaire de l'Académie et les listes de terminologie de la Commission générale. Au surplus, ma communication n'intervient pas dans l'ordre qu'elle devrait respecter, puisqu'elle aurait dû intervenir après plusieurs communications aujourd'hui, en particulier celle de Mme Carrère-Dancausse. Mais ce sont les contraintes de l'emploi du temps qui m'oblige à parler maintenant. Donc, essayons de comparer et essayons d'esquisser quelques réflexions ensuite. Il y a deux appareils de production terminologique et lexicographique qui sont complètement différents et que, à la limite, on pourrait ne pas rapprocher. L'Académie française et le dictionnaire de la langue française de l'Académie, ce corps indépendant, souverain, on l'a dit quelquefois, qui a reçu depuis 1635 la mission de donner des règles à la langue, en tout cas de consacrer l'usage, le bon usage de la langue française. L'appareil de terminologie est un appareil étatique qui répond à une volonté des autorités des pouvoirs publics et qui répond à une mission, un objectif assez utilitariste. Il s'agit de répondre aux besoins des professions, des experts, des chercheurs, des savants, de disposer dans la langue française de termes permettant de désigner toutes les réalités au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Nous ne sommes pas seuls à accomplir cette mission. Les Québécois le font peut-être de manière plus systématique que nous. Leur législation les y oblige, plus fortement que la nôtre, mais la nôtre le prévoit aussi. Et il ne faut jamais oublier de mentionner que tous les francophones n'ayant pas la langue française comme langue maternelle attendent de nos efforts et de l'accomplissement de notre mission que la langue française conserve son caractère universel et qu'elle continue à servir pour ces communautés francophones d'accès à la modernité, à la science, à la technique, au monde moderne, au monde professionnel. Et donc c'est un devoir que d'accomplir cette mission. pour ce faire, alors, pas d'appareil prestigieux, pas d'ancienneté, mais depuis 1996, une commission générale composée d'une quinzaine de grands spécialistes d'origines diverses, nommés par le gouvernement, et qui se réunissent bénévolement une fois par mois pour établir des listes de terminologie et de néologie par domaine de vocabulaire. Cette commission générale travaille sur les propositions de 20 commissions spécialisées qui existent dans les ministères, composées de la même manière de spécialistes, de professionnels et d'experts de la langue et d'administrateurs, et qui accomplissent cette mission essentielle de veille terminologique, c'est-à-dire de repérer quels sont les besoins, quelles sont les lacunes de la langue française pour désigner des réalités nouvelles, qui cherche les propositions d'équivalents les plus adaptées, les plus ingénieuses, et qui les propose à la Commission générale de terminologie. Cette commission les étudie, fait des propositions et les fait à l'Académie française, qui doit donner son avis sur les choix retenus. L'avis de l'Académie française est un avis conforme, c'est-à-dire que l'Académie doit donner son accord sur les propositions de la Commission générale de terminologie. Ce n'est qu'après que l'accord s'est fait entre l'appareil de terminologie et l'Académie française que ces listes de termes peuvent être publiées au journal officiel et possèdent une valeur qui est assez différente de celle du dictionnaire de l'Académie française. Le dictionnaire de l'Académie française sert de référence à son prestige, mais il n'a pas de valeur normative. Les listes approuvées par la Commission générale de terminologie sont publiées au journal officiel, c'est une curieuse manière pour faire de la lexicographie, mais enfin on n'en a pas trouvé d'autres. Elles sont publiées de bien d'autres manières aussi, par la délégation à la langue française, par le ministère de l'Éducation nationale, par les bulletins des ministères et par les bulletins professionnels. Mais enfin, le moment, c'est la publication au journal officiel. Et à partir de ce moment, ces termes ont une valeur normative et doivent être employés par au moins les administrations et tout ce qui est dans l'orbite publique. À l'égard des personnes privées, des entreprises, ces termes ont une valeur de référence, d'exemple, et il est certes de recommandation pour les utiliser. Comme ces termes répondent la plupart du temps à une attente des milieux professionnels, leur insertion dans le vocabulaire professionnel ne fait pas trop de difficultés et se fait assez naturellement. Leur usage dans le public, c'est une autre chose. Et on ne peut pas dire que l'usage soit immédiatement observé, ni dans le public, ni surtout peut-être dans la presse et dans les médias. Et c'est bien là qu'est le problème. Les médias forment un écran assez difficile à percer entre des travaux de terminologie reconnus nécessaires par tout le monde et répondant à un besoin, et puis l'usage dans le grand public. Usage par les professionnels, oui, dans le grand public, c'est plus difficile. Alors, quelques mots de comparaison entre les travaux. Il y a deux différences essentielles et une différence de rythme, de calendrier. La différence première entre le dictionnaire de l'Académie et les listes de terminologie, c'est que l'Académie définit les mots, l'un après l'autre, et que les listes de terminologie choisissent, prennent des expressions, quelquefois composées de plusieurs mots, souvent composées de plusieurs mots. Et donc, le classement n'est pas le même, les entrées ne sont pas les mêmes, et même la recherche terminologique n'est pas la même, puisque à partir d'un mot, d'une entrée, les listes de terminologie déclinent plusieurs usages, et quelquefois des usages nombreux de ce mot, accompagnés d'adjectifs ou d'un complément qui permettent de définir des réalités différentes, des réalités professionnelles différentes. Alors, une autre différence que l'on pourrait noter aussi, c'est que le dictionnaire de l'Académie est un dictionnaire d'usage commun, d'usage général. Les travaux de terminologie ne se comprennent et n'ont leur utilité que par domaine de vocabulaire. La première question à savoir, c'est dans quel domaine de vocabulaire est-on ? Est-on dans le vocabulaire de l'automobile, de la publicité, du génie atomique ou de l'ingénierie financière ? Les choses sont complètement différentes et les mots ont un autre sens selon les domaines de vocabulaire. Alors, c'est une différence fondamentale qui fait qu'il est très difficile de rapprocher les travaux de l'Académie française et les travaux de terminologie. Car justement, tout le travail de l'Académie française et probablement toute sa mission, c'est de rompre le cercle du vocabulaire professionnel et de passer tout de suite, de se placer toujours sur l'usage général et commun et donc d'avoir une vision transversale et supérieure de l'évolution de la langue. Mais les deux optiques sont tout à fait indispensables et nécessaires et on répond à un besoin des professionnels en se situant dans un domaine de vocabulaire. D'ailleurs, la veille terminologique se fait par domaine de vocabulaire et les propositions, les équivalences se font aussi par domaine de vocabulaire. Une des missions de la Commission générale de terminologie est d'harmoniser les travaux des différentes commissions spécialisées, c'est-à-dire d'introduire une cohérence et quelquefois de réunir presque d'autorité des commissions spécialisées par domaines de vocabulaire différents pour leur demander d'examiner en commun des termes qui ne peuvent pas s'examiner complètement séparément. Alors, il y a une différence aussi très grande, c'est le rythme des travaux et le terme que l'on s'assigne. L'Académie française consacre le bon usage et donc intègre par elle-même tout le passé de la langue et des mots et adapte sa vision à ce qu'elle sait de la situation actuelle. Les travaux de terminologie sont orientés vers l'avenir. Ils essayent de repérer les lacunes qui existent dans le vocabulaire français et de combler ces lacunes. Il existe des lacunes, car le besoin de mots nouveaux est considérable dans le monde moderne, considérable. Il faut savoir que pour un engin un peu compliqué de nos jours, que ce soit une centrale atomique ou un avion supersonique, il y a des dizaines de milliers de mots nouveaux à chaque production scientifique ou technique nouvelle. Et donc un besoin considérable de mots nouveaux qu'il faut donner en français, des équivalents français. Et c'est donc une activité tournée vers l'avenir et qui en plus est le plus souvent une course de vitesse entre l'usage qui s'installe d'après le mot créé en américain et l'équivalent français qui tarde un peu à arriver et qui a beaucoup de mal à rattraper l'usage qui s'est déjà installé dans les milieux professionnels. Au contraire, l'Académie française tient à avoir une certaine distance par rapport à l'évolution de la langue et se gardera bien d'intervenir trop tôt, car l'évolution de la langue est lente, l'usage lui-même ne s'instaure jamais rapidement. Alors, y a-t-il incompatibilité de vue et de rythme de travail entre les deux? Eh bien non, c'est l'originalité du système que je voudrais souligner un instant, c'est que d'abord, il y a interpénétration entre les deux systèmes, ça a été voulu par le décret de 1996, et cette interpénétration, c'est que au sein de la Commission générale de terminologie, l'Académie française est représentée par son secrétaire perpétuel qui est membre de droit, et M. Maurice Druon assistait très volontiers aux séances de la Commission générale lorsqu'il était secrétaire perpétuel, et y intervenait très volontiers. Ce n'est pas le cas de Mme Carrère-Lancaus, qui a adopté une autre position, qui est de ne pas être présente elle-même au sein de la Commission générale et d'y être représentée par le service du dictionnaire, plusieurs personnalités du service du dictionnaire qui participent très activement aux travaux de la Commission générale de terminologie. Pourquoi Mme Carrère-Lancaus a préféré ne pas être présente? C'est parce que l'autre interpénétration, c'est que tous les travaux des commissions de terminologie doivent être soumis pour avis à l'Académie française, qui doit donner son avis conforme. Et donc, Madame le secrétaire perpétuel a considéré que ce serait d'être d'une certaine manière jugé parti que de participer au choix au départ et de donner ou de refuser son avis conforme au sein de l'Académie française, de la Commission du Dictionnaire. Et donc, elle préfère réserver ses interventions pour la Commission du Dictionnaire et pour l'Académie française. Mais il faut savoir que la Commission du Dictionnaire consacre beaucoup de temps à l'examen des listes de terminologie, c'est une autre mission, assez différente de celle de préparer le dictionnaire, et ce sont des travaux qui l'intéressent beaucoup. Et il faut savoir aussi que la commission du dictionnaire a adopté un rythme complètement différent pour ces listes de terminologie et pour les travaux du dictionnaire. La réglementation, dont il se trouve que j'ai été l'auteur en 1996, avait bien vu le risque, le danger, et c'est avec Maurice Druon que nous avons ensemble établi ce système. Et Maurice Druon a plaidé pour qu'il y ait un délai, pour forcer l'Académie à se prononcer dans un certain délai. Alors, quel délai choisir? Si c'est au rythme des dictionnaires, on pouvait imaginer toutes sortes de délais lointains. Et nous avons retenu le délai de 4 mois. C'est-à-dire que lorsque l'Académie française est saisie d'une liste de terminologie, si elle n'a pas donné son avis dans les 4 mois, ça veut dire qu'elle est d'accord. C'était une manière de la forcer à donner son avis rapidement. Eh bien, ce délai de 4 mois, qui est très court, n'a pas posé de problème à l'Académie française et celle-ci a toujours donné son avis bien avant l'expiration du délai de 4 mois. Et aucune fois, elle n'a laissé jouer la disposition qui est que sans avis, elle serait d'accord au bout de 4 mois. C'est donc un changement de rythme, comme vous le voyez, tout à fait considérable, et que l'Académie française a tenu à opérer, qui ne sera peut-être pas sans conséquence sur le rythme des travaux en général du dictionnaire. Alors, ayant fait cette comparaison, je voudrais vous donner quelques exemples des cas qui se présentent, n'est-ce pas, et de points de convergence ou de divergence qui peuvent exister entre les deux systèmes. Très rapidement, mais voilà, bon, le recensement qui a été fait devra donner lieu à des travaux ultérieurs et à des publications, j'imagine, parce qu'ils sont intéressants. Et que c'est un champ nouveau ouvert à l'étude de la lexicographie. Alors, la plupart du temps, ce sont des questions de domaines qui divergent, qui font. Par exemple, les travaux de la commission de terminologie, par domaine de vocabulaire, prennent un mot, lui donnent son sens dans ce domaine de vocabulaire. Ce que ne fait jamais l'Académie française. Alors, prenons le mot icône. Eh bien, l'Académie française parle du grec byzantin et donne la définition du mot icône. Dans le domaine de l'informatique, qui est le seul qui examine la terminologie. Icône, c'est sur un écran symbole graphique qui représente une fonction ou une application logicielle particulière que l'on peut sélectionner et activer au moyen d'un dispositif tel qu'une souris. Et on indique que l'équivalent étranger est icône et que, à certains moments, les lexicographes français ont imaginé que pour distinguer l'icône informatique de l'icône, il fallait faire quelque chose. Alors ils ont imaginé d'enlever l'accent circonflexe et deuxièmement d'en faire un nom masculin. Alors nous avons tranché en disant non, on utilise icône avec un accent circonflexe, c'est le nom féminin, mais dans le domaine d'une icône informatique. Voilà le genre de problème qui est... Eh bien alors, on pourrait multiplier les exemples infinis. Par exemple, Internet. L'Académie française a retenu le mot Internet comme un nom commun masculin français. Mais nous sommes, nous, obligés de définir l'Internet, puis l'intranet, puis l'internaute, puis tous les dérivés de ce que ne fait pas l'Académie française. Par exemple, fiduciaire. Alors, fiduciaire, vieux, beau français, qui a eu toutes sortes de significations depuis le Moyen-Âge, dans différents domaines. Nous, dans le domaine de l'économie et des finances, fiduciaire, c'est non seulement le terme adjectif, une société fiduciaire, qui est retenue, évidemment, mais c'est du vocabulaire général. Mais en plus, un fiduciaire, non masculin, c'est une personne... à laquelle est temporairement transférée la propriété de biens et de droits et en charge pour elle d'agir dans l'intérêt du constituant, c'est-à-dire l'équivalent français de trustee, tout simplement, équivalent bien nécessaire dans la langue, bien que dans les institutions, comme vous le savez, les trusts n'existent pas dans la législation française. Et donc, un fiduciaire, on peut en parler, mais il n'y en a pas dans le droit français. Alors, on pourrait multiplier les exemples, j'en ai beaucoup, je pense que je l'ai... donnerait au secrétariat du colloque pour peut-être éventuellement enrichir le texte du colloque. Alors, il y a des points de divergence qui sont toujours intéressants. Par exemple, dans un certain nombre de cas, l'Académie française se montre moins protectrice de la langue française contre l'anglais que ne l'est la Commission générale de terminologie, dont c'est la mission de donner des équivalents français. Alors il y a beaucoup d'exemples dans lesquels l'Académie française a admis le mot anglais comme étant entré dans l'usage, ou ne décommandant pas formellement l'usage du mot anglais, quelquefois même le citant, ce qui est tout de même une référence dans le dictionnaire de l'Académie, et donc incitant à son usage, alors que nous le déconseillons formellement. Alors, c'est le cas, par exemple, de discount, que nous avons proposé comme mot français équivalent de discount en anglais. Alors, pour nous, c'est formel. On doit dire discount et non pas discount en français. Alors, l'Académie française dit discount, mot déparlé du Nord et de l'Ouest, parfois employé au Canada. Ce mot est recommandé à la place de l'anglais discount. Bon, c'est un peu faible comme recommandation. Il y a plus grave, par exemple, flashback. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un flashback en cinéma et en télévision. Alors, les professionnels et la Commission générale de terminologie a adopté le mot retour en arrière, formellement adopté, avec l'avis conforme de l'Académie française, sinon il ne pourrait pas être adopté. Mais dans le dictionnaire de l'Académie française, on trouve flashback, 20e siècle, mot anglais composé de flash, plan de très courte durée, et back, en arrière, en cinéma, séquence cinématographique, évoquant une période antérieure à celle de l'action principale, s'emploie parfois à propos d'une œuvre littéraire, entre parenthèses, on préférera retour en arrière. Voilà. Vous voyez que les deux systèmes coexistent, s'appuient l'un l'autre et ne coïncident pas forcément. Alors, par exemple, on a eu un peu de peine à faire admettre le mot manager, manager et management comme mot français à la place de manager, management, etc. Par exemple, alors il y a un exemple encore plus étonnant, c'est celui de didacticiel. il est intéressant d'en parler ici, n'est-ce pas? Alors, le mot didacticiel répond à un besoin tout à fait évident, précis et bien net, et en plus il se dérive d'un terme français qui a été une des trouvailles de la terminologie moderne, qui est le logiciel, donc on décline. Et... Alors, l'Académie française a eu beaucoup de mal à adopter le mot didacticiel, et elle a rendu d'abord un avis défavorable. On préférera logiciel éducatif, largement usité, ou encore logiciel pédagogique. Il est possible d'ajouter en note, on trouve aussi dans le langage professionnel le terme didacticiel. Ça, c'est l'avis de l'Académie française. Finalement, l'avis a été obtenu à la suite de navettes, et c'est dans cela que le mécanisme que je décrivais est intéressant. Il y a des navettes, et finalement, on arrive à convaincre l'Académie que didacticiel est un mot français utile, et qu'on ne peut pas priver le vocabulaire français du mot didacticiel. Et il a été adopté après avoir fait l'objet d'un avis défavorable de l'Académie française. Il a été adopté en liste de terminologie avec l'avis favorable de l'Académie française, puis intégré dans le dictionnaire de l'Académie française. Voilà, on pourrait suivre toutes ces questions. Je donne encore un exemple. Niche. Dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est une niche. Et alors, dans le domaine de l'économie et des finances, la niche, c'est autre chose. C'est tout simplement l'équivalent français de loophole, qui est une réalité bien, bien précise et bien... Et donc, lacune ou vide législatif permettant d'échapper à l'impôt sans être en infraction. Évidemment, on ne trouve pas ça exactement dans le dictionnaire de l'Académie française, mais on trouve une autre définition, spécialement, dans le vocabulaire de l'économie et des finances, régime avantageux résultant d'une disposition particulière en matière fiscale et ou budgétaire. Définition différente, petite variation de définition. Alors, la remarque générale, c'est que cette étude que je vous présente, elle est peut-être un peu prématurée, parce que les deux systèmes ne coexistent que depuis 1996, et en termes de lexicographie, c'est peu. Deuxièmement, si le rythme des travaux de l'Académie française a beaucoup s'est accéléré, le déroulement des travaux reste le même, c'est-à-dire que on ne rattrape pas les termes qui sont déjà passés dans l'examen de l'Académie française. Nous en sommes au terme RE, n'est-ce pas, à la lettre RE, eh bien, tout ce qui est avant, c'est passé. Et les questions de terminologie arrivent sans considération de cela. Et donc, si on attend la prochaine édition du dictionnaire, ça sera plus difficile. Mais en réalité, le sujet dont je parle aujourd'hui ne pourra être vraiment traité que lorsqu'il y aura une édition complète du dictionnaire de l'Académie qui tiendra compte des travaux de la terminologie. Et cependant, alors je voudrais faire quelques remarques pour terminer très rapidement sur le fait que ce dispositif est neuf, indispensable et très heureux et qu'il fonctionne très bien. Pour la Commission générale de terminologie, c'est l'évidence même. Le fait de s'appuyer sur l'Académie française, ce que nous faisons constamment, est un très précieux appui, notamment dans la rédaction des définitions, qui sont toujours améliorées par l'Académie française, et ces améliorations toujours suivies par les commissions spécialisées, y compris les experts, qui sont souvent un peu chatouilleux sur leurs définitions, mais ils adoptent toujours les définitions modifiées par l'Académie française. Mais pas seulement de cela, y compris le choix des termes et les entrées, ce qui est évidemment beaucoup plus important. Là, il y a une question d'intuition linguistique qui n'est pas toujours la même, il y a quelques points de conflit, mais enfin, généralement, dans 90% des cas, l'accord se fait quelquefois après quelques navettes, mais l'accord se fait avec des démonstrations, des justifications qui est apportée à l'Académie française. Mais du côté de l'Académie française, comment peut-on envisager cette collaboration? Est-ce intéressant? Est-ce enrichissant? On pouvait se poser la question. Monsieur Maurice Druon avait eu l'intuition que ça serait intéressant pour l'Académie française. Enfin, il fallait le faire vivre. Et Madame Carrère-Lancaux en est, elle, bien convaincue maintenant, après quelques années d'expérience. Quelles sont les modifications? D'abord, cela fait bénéficier à l'Académie française de tout l'appareil de veille lexicale dont l'Académie française ne disposait pas naturellement, et que tout le système, tout le réseau de terminologie et de néologie lui apporte. Et donc c'est très intéressant de disposer de cette très important recensement des besoins linguistiques qui existent dans les différents domaines de vocabulaire, c'est-à-dire dans les activités et les professions. D'autre part, comme vous l'avez peut-être vu, nous sommes toujours dans un domaine de vocabulaire précis et technique, quelquefois scientifique, souvent scientifique même. Et donc, l'Académie française a, par la force des choses, abordé des domaines de vocabulaire qui ne lui étaient pas familiers, et elle s'est habituée à aborder des questions de vulgarisation scientifique qui, maintenant, sont tout à fait... dans ses habitudes de raisonnement. Pour trouver des équivalents français, souvent on est obligé de faire œuvre de néologie. Le néologisme n'est pas le propre de l'Académie française, par définition. Et même on peut dire que d'une manière générale, la langue française n'est pas la plus souple en matière de néologisme. Et cependant, on y est contraint de temps en temps, et donc c'est une dimension ouverte qui est ouverte par ces travaux de terminologie et qui sont extrêmement intéressants. Et enfin, l'Académie française s'est adaptée à ce nouveau mode de raisonnement qui est que les travaux de terminologie ont une valeur normative. C'est-à-dire engage d'une certaine manière l'Académie française dans une position... public et pour ainsi dire étatique à l'égard des questions de langue, ce qui n'est pas le cas naturellement pour le dictionnaire de l'Académie française qui se situe dans une autre sphère mais qui n'a pas de valeur normative. Et donc peut-être que participant à ces travaux de terminologie qui ont une valeur normative, les questions de responsabilité linguistique sont entrées plus précisément dans les travaux de la commission du dictionnaire de l'Académie française. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous présenter comme un témoignage personnel, pas du tout comme une analyse scientifique. J'ai conscience que, je regrette d'ailleurs que mon exposé ne se soit pas déroulé en présence de Mme Carrère-Lancaux. Il a été préparé avec les travaux de la commission du dictionnaire, bien entendu. Mais enfin, j'aurais préféré qu'elle soit là. Cette communication n'est qu'une ouverture et qu'une invitation à prolonger les travaux de vraie lexicographie dans cette matière. Je pense qu'il y aurait un intérêt très grand à faire suivre cette communication un peu improvisée de un véritable recensement, de véritables travaux sur ce thème, car probablement il y a là des pistes de réflexion tout à fait intéressantes à l'avenir, et je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment pour cet exposé passionnant. Cher maître, permettez-moi de profiter de la situation pour vous lancer un appel au secours et vous poser une question directe. L'appel au secours concerne les sigles en matière informatique. En matière informatique, la langue française a connu des succès avec la souris, l'ordinateur et l'icône, vous l'avez mentionné. Mais il faut avoir assisté à une séance de travail avec des informaticiens dans une université pour comprendre que les VLAN, etc., enfin, il y a une avalanche de sigles. Alors, je ne sais pas ce que vous pourrez faire, mais c'est terrible. La question directe, elle est la suivante. Est-ce que nous avons toujours votre soutien pour lutter pour le mail, M-E-L, contre le courriel?
Il me reste une minute de rester ici, alors je vous réponds sur le mail. Il y a une confusion probablement la Commission générale de terminologie ne s'est pas bien expliquée, n'a pas bien précisé sa position. Le mot anglais email fait des ravages parmi les imprimeurs, dans la presse, et bon, il fallait trouver un équivalent français. Nous avons eu du mal à trouver un équivalent français, et cette question a été examinée au moment où le Québec était en train d'adopter un système compliqué dans lequel il y aurait trois équivalents, courriel, adrel et encore un autre.
Courriel aussi.
Il y avait courriel, mais il y avait adrel. Et email, c'est adrel, en réalité. Courriel, c'est le contenu, c'est le message. Adrel, c'était l'adresse. Alors, nous sommes restés un peu perplexes, tant plus que le Québec n'avait pas encore défini sa position. Et nous avons adopté une position minimaliste qui n'a pas été comprise, qui était une recommandation pour les typographes, pour les imprimeurs, en disant... Lorsqu'on donne son adresse, on complète son adresse avec une abréviation qui est TEL, T-E-L, 2. Numéro de téléphone. Pourquoi ne pas mettre en dessous MEL, M-E-L, abréviation de message électronique, et on donnerait son adresse électronique. C'est tout ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais proposé que MEL soit un nom commun. C'est une abréviation de messagerie électronique. Messagerie électronique. Par comparaison avec tel téléphone. Alors ça n'a pas été compris, des gens bien intentionnés ont parlé de un mail, envoie-moi un mail, enfin, il y avait peut-être une justification, c'est que dans la prononciation, les Français n'ont jamais pu prononcer email. Les imprimeurs d'ailleurs ont commencé à l'écrire E accent aigu, M-A-I-L, sans trait d'union et avec l'accent aigu, c'est-à-dire ça se prononce email. Et donc, il y avait une confusion complète. Et les Français ont compris que s'ils disaient mail, au fond, ça serait aussi bien, sans savoir comment l'écrire, d'ailleurs, M-A-I-L-E, ou peu importe. Et on en était là. Et dans cette situation de grande confusion, finalement, la Commission générale de terminologie a adopté courriel, l'Académie française aussi. L'Académie française n'avait pas adopté courriel au départ, et c'est devenu un mot français tout à fait adopté et dont l'usage se répand maintenant. Nous n'en avons pas pour autant supprimé le mot mail dans la mesure où il l'abréviation, par exemple. Pardon, mail dans la mesure où il peut servir aux imprimeurs. C'est-à-dire que si sur les papiers à lettres, les cartes de visite, on met mail adresse, et en faisant suivre l'adresse électronique, eh bien après tout, c'est une facilité de langage que tout le monde peut comprendre un peu. Voilà le point où on en est.
Merci infiniment.
Après cette intervention de M. Gabriel Debreuil au cours du colloque organisé par la MOPA consacré au dictionnaire, je vous propose d'écouter maintenant M. Jean Pruvot, directeur du laboratoire CNRS Médatif. Il s'exprime sur la lexicographie française au XXIe siècle, un bilan impressionnant entre pérennité et métamorphose.
Mesdames et messieurs les membres de l'Institut, Monsieur le Président, chers amis des dictionnaires et de la MOPA. En 1994, mon maître Bernard Quémada organisait à l'Institut un colloque intitulé « Les dictionnaires de l'Académie française et la lexicographie institutionnelle européenne ». Il m'avait alors demandé d'organiser matériellement cette fête scientifique. J'étais venu avec des étudiantes en lexicologie de Cergy. Elles avaient été très impressionnées par le secrétaire perpétuel de l'Académie et les académiciens et par les lieux. L'université alors était aussi représentée par l'enseignant que je représente. J'avais 10 ans de moins, pas de lunettes. 10 ans après, monsieur le président de l'université vient ici ouvrir la journée. Il y a quelques doctorantes de l'université dans l'assemblée. Je ne crois pas au hasard, un lien secret existe entre cette université jeune présidée avec tant d'énergie par un mathématicien lettré et la dame du Quai Conti, triséculaire, qui a gardé toute sa vitalité et dont le dictionnaire reste un modèle. Mes étudiants et mon université aiment les dictionnaires, aiment l'Académie française. Ils sont infiniment reconnaissants à la MOPA et à son président d'avoir organisé cette journée. Nous essaierons d'en être dignes. J'ouvre donc la journée avec pour thème la lexicographie française au XXIe siècle, un bilan impressionnant entre pérennité et métamorphose. Le bilan n'est pas bien sûr du XXIe siècle, ce serait un peu court. On l'a compris, c'est celui du XXe et du XXIe. Une première approche pourrait être celle consacrée à 100 millésimes, les 100 petits Larousse, qui sont symboliques d'un siècle. On vient de fêter effectivement le centenaire du petit Larousse illustré. Le millésime 2006 a eu un grand succès, comme le précédent. 100 ans qui se confondent avec un siècle, avec deux guerres mondiales, de Verdun à Hiroshima, qui sont partis des premiers essais téléphoniques pour arriver au portable, au téléphone. Acheter un dictionnaire aujourd'hui suppose de préciser s'il s'agit d'un livre ou d'un CD-ROM, ou même de consulter Internet. Pourtant, au seuil du XXe siècle, du XXIe, et au terme de ce parcours technologiquement vertigineux, le petit Larousse illustré, né en 1905, se vend encore aujourd'hui sur papier avec plus d'un million d'exemplaires par an, et ce, sans changement technique révolutionnaire. Il y a cependant, comme on le sait, une différence de taille dans l'histoire de la lexicographie. Nous sommes passés de presque 2 kilos et 1664 pages à la possibilité d'un écran, quelques grammes sur un CD-ROM. Et lorsque plusieurs centaines d'heures s'imposaient pour lire la totalité d'un dictionnaire et dénicher les différentes occurrences d'un mot, aujourd'hui, avec la version électronique, en quelques secondes, on repère les différentes occurrences d'un mot. Quant au domaine de l'illustration, on sait que c'est devenu une image mobile, que c'est aussi le multimédia. Alors je crois qu'aussi en abordant le dictionnaire de l'Académie française, on constate une magnifique pérennité entre le dictionnaire papier, deux éditions viennent de paraître, mais aussi la consultation possible sur Internet. La progression technologique est donc là, mais elle n'a pas tué le papier. Et on constate que, indéniablement, l'histoire des dictionnaires du XXe siècle est à la fois dans une tradition et dans un modernisme toujours renouvelé. Une deuxième approche, c'est le constat que le XXe et XXIe siècle maintenant sont héritiers de la renaissance lexicographique décisive de la fin du XIXe siècle. Et là, il y aurait peut-être quatre distinctions à établir. La première serait de rappeler, sans doute issue de la loi Guizot en 1833, qui en instaurant l'obligation d'une école par commune et d'une école normale par département, a entraîné la naissance des premiers dictionnaires d'apprentissage qui furent d'emblée millésimés. Et on pense forcément ici au nouveau dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse en 1856, avec cette fameuse épigraphe qu'on retrouvera dans le petit Larousse jusqu'en 1966, un dictionnaire sans exemple est un squelette. Deuxième distinction, c'est le fait que, à partir du moment où on a millésimé les dictionnaires, on a bénéficié d'une photographie régulière de la langue. L'Académie le fait depuis 1694, à période régulière. Et en 1856, Pierre Larousse daguerréotypait la langue, c'était son mot. On a aujourd'hui, par de grandes maisons prestigieuses, qu'il s'agisse de Larousse ou de Robert, une sorte de photographie régulière de la langue, avec une mise à jour qui, évidemment, prend tout son intérêt au moment où la langue est toujours à défendre. Une troisième distinction est fondée sur la mouvance de la linguistique historique et comparée qui a traversé tout le XIXe siècle. Mouvement rejeté au XXe siècle, un temps au profit du structuralisme, indirectement réhabilité aux confins du XXe et du XXIe siècle. Il y a ici des spécialistes de l'histoire, du dictionnaire de l'histoire de la langue française que l'Académie avait rédigé au XIXe siècle, avec beaucoup d'avance sur finalement d'autres entreprises. On sent aujourd'hui qu'il y a de nouveau un regain d'intérêt pour tout ce qui concerne la diachronie, l'histoire de la langue. On en avait donc les premières distinctions au XIXe siècle. Un quatrième concept opératoire me semble important, c'est l'idée, derrière le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, derrière ce qu'on pourrait appeler le grand littré, le dictionnaire de la langue française, qu'on peut avoir régulièrement, tous les 20 ans ou 30 ans, un très grand dictionnaire, qu'il s'agisse de Larousse ou de Robert, qui soit une remise à jour et une photographie importante, comme l'Académie le fait de manière régulière. On peut donc dire que le XXe, le XXIe siècle, à la manière du XIXe siècle que Pierre Larousse désigné comme le siècle des dictionnaires est aussi le siècle des dictionnaires. Dictionnaire papier et finalement dictionnaire aussi électronique. Troisième approche, chronologique. Le XXe siècle dans sa première moitié. Et là, sans aucun doute, on assiste à un feu d'artifice éditorial, une sorte de démocratisation des dictionnaires, derrière une maison, Larousse, qui est à la conquête de tous les marchés. On pourrait dire derrière un homme, Pierre Larousse, dont le dictionnaire n'était pas éponyme. Mais bientôt, à partir de 1898, on va bénéficier du nouveau Larousse illustré, en 7 volumes, par Claude Auger, qui est une reprise rendue illustrée et, disons, plus objective du grand dictionnaire universel du XIXe siècle. 1905, c'est le premier millésime du petit Larousse illustré, sous la direction de Claude Auger. On sait qu'il a eu un succès d'emblée et qu'il poursuit dans cette même dynamique en franchissant le XXIe siècle. 1907, c'est le Larousse mensuel illustré, trop souvent oublié. 50 ans de publication jusqu'en 1957. Chaque mois, dans l'ordre alphabétique, une sorte de supplément, avec des informations sur la langue, mais aussi des informations sur le monde littéraire, sur le monde scientifique, sur la politique. 1907, c'est aussi le Larousse pour tous en 2 volumes. Le second volume serait publié en 1909. Qu'on y réfléchisse bien, qu'une maison puisse publier un dictionnaire en 7 volumes et en même temps un dictionnaire en 2 volumes, c'est avoir confiance en les dictionnaires. Et je crois que la confiance a été récompensée. 1910, le Larousse classique illustré, toujours sous la direction de Claude Auger. C'est le marché scolaire qui, cette fois-ci, est investi. 1911, le Larousse de poche, sous la direction de Claude Auger. 1914, le Larousse élémentaire illustré. Malgré son nom, il s'agit d'un dictionnaire qui donnait les premiers éléments et qui était destiné au grand public, à tous les publics. C'est ensuite, par homonymie presque avec l'école élémentaire, qu'il est devenu un dictionnaire pour les écoles. 1922, c'est une petite date, mais c'est le Larousse agricole. Et derrière lui, le Larousse ménager illustré en 1926, le Larousse gastronomique. Bref, toute une série de dictionnaires spécialisés. 1928-1933, le Larousse du XXe siècle en 6 volumes. Par le fils de Claude Auger, dirigé donc par Paul Auger. 1936, c'est le petit dictionnaire français, date symbolique dans l'histoire de France. 1949, c'est le Larousse des débutants avec Miguel, Michel de Toro, qui était aussi à la direction du Pequeño Larousse Ilustrado, qui datait de 1912. Et bientôt, ce sont des linguistes comme Claude Dubois et Jean Dubois qui prennent la relève. 1949, c'est le nouveau Larousse, c'est le Larousse des débutants, qui connaîtra ensuite le nouveau Larousse des débutants, et qui représente le premier dictionnaire d'apprentissage vraiment centré sur les enfants, avec des illustrations qui sont en rapport étroit avec le texte, qui essaiera aussi de se faire le relais des travaux scientifiques de Guggenheim, avec notamment le vocabulaire fondamental qui sera introduit en annexe de ce dictionnaire en 1962. Nous voici en 1950. Un demi-siècle s'est écoulé, je n'ai parlé que de Larousse. Y avait-il un concurrent au cours de ce premier demi-siècle, un seul, en définitive, du côté encyclopédique, Aristide Quillet, avec le dictionnaire encyclopédique en 1946, Aristide Quillet, lui aussi autodidacte, comme Pierre Larousse. En 1946 aussi, dictionnaire Quillet de la langue française. On sent qu'il y a un manque, on a un bon et grand dictionnaire, qu'est le dictionnaire de l'Académie, dans sa huitième édition. Il n'y a pas d'autre dictionnaire de langue dans l'entreprise privée prestigieuse. Le Littré n'est pas réédité, il est simplement acheté de plus en plus chez les bouquinistes. Il y a donc, au terme de ce parcours, une démocratisation des dictionnaires derrière une grande maison. La maison Robert n'est pas encore là. Quatre remarques très vite me semblent s'imposer. Grande démocratisation des dictionnaires. Deuxième remarque, un outil pragmatique qui s'est installé avec des photographies régulières. Le dictionnaire n'est pas derrière une grande théorie de la langue. Il est derrière un besoin ressenti par la population et en ce sens, il échappe peut-être à la dynamique du XIXe siècle, derrière la linguistique historique. Une autre remarque s'impose, la lexicographie institutionnelle est représentée par l'Académie. grand dictionnaire de langue française. Il n'y a pas d'autre dictionnaire de langue française. On sait que l'Académie, à ce moment-là, a envisagé aussi la possibilité d'un petit dictionnaire de l'Académie. Gabriel Quémada l'avait mis en relief dans cet ouvrage qu'avait dirigé Bernard Quémada sur l'ensemble des dictionnaires de l'Académie et les préfaces. Et enfin, dernière remarque, c'est le Littré qui s'est imposé comme dictionnaire de langue, mais un peu à la formule, avec la formule de Méchonic qui disait que l'avenir du Littré c'était son passé. En réalité, le Littré n'est pas remis à jour. Donc il y a un manque du côté des dictionnaires de langue de type historique. Quatrième approche, le demi-siècle d'or, c'est ainsi que je crois qu'on pourrait l'appeler, de la lexicographie française, qui va aller de 1950 à 1994. Pourquoi 1950? Parce que 1950, c'est le premier fascicule du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, donc une grande aventure aussi qui commence. 1994, c'est le dernier volume du Trésor de la langue française. C'est aussi le tricentenaire de l'édition du dictionnaire de l'Académie française. Alors, un nouveau grand dictionnaire de langue, mais en fait, trois grands dictionnaires de langue. Je vais les énumérer rapidement. Ce grand dictionnaire de langue, nouveau, c'est d'abord celui de Paul Robert, qui obtient le prix Saint-Ours de l'Académie française en 1950. L'encouragement symbolique, le signe qui va lui permettre de poursuivre. Et d'ailleurs, d'organiser un concours où il recrutera Alain Rey et Josette Redebove en 1952. 1964, le sixième et dernier volume est achevé au terme de 15 ans de travail. 1967, Le Petit Robert est publié. Il s'est installé de telle manière que lorsqu'on demande à nos contemporains peu versés dans l'histoire des dictionnaires de quand date le petit Robert, ils ont l'impression qu'il date depuis plus d'un siècle parfois. 1970, le supplément dirigé par Alain Rey. Et puis 2005, cela a été évoqué tout à l'heure, le dictionnaire culturel en langue française, en chantier depuis 1992, qui est publié. Voilà pour un premier grand dictionnaire de langue devenu le grand Robert et avec donc des filiations du côté maintenant du dictionnaire culturel. Un autre grand dictionnaire de langue qui explique ce siècle d'or, c'est le Grand Larousse de la langue française, non réédité hélas. En 1971 paraît le premier des six volumes du Grand Larousse de la langue française. Ce sont des universitaires de Nanterre qui le dirigent. C'est un paradoxe, ce dictionnaire est de très grande qualité. 170 articles encyclopédiques de linguistique y sont distribués. La description de la langue se révélait très précise, très construite. C'est cependant un échec, le grand Robert était déjà là. Comment l'expliquer? Peut-être parce que le public aussi de la Maison Larousse n'était pas habitué à bénéficier d'un dictionnaire qui soit uniquement de langue française. C'est un dictionnaire d'une certaine manière universel et encyclopédique auquel était habitué le public larroussien. Ce dictionnaire est arrivé aussi à une mauvaise époque en termes d'édition. Sa réédition n'était pas facile, il n'était pas sur clichés, il n'était pas fondé sur l'informatique et il n'y a pas eu de réédition. Cela reste un très grand dictionnaire que l'on recherche et que l'on retrouve dans les différentes bibliothèques. Et puis, un troisième grand dictionnaire monumental, dont je vais peu parler puisqu'il en sera question tout à l'heure, le Trésor de la langue française. On a ici des hommes qui l'ont fondé, le recteur Antoine, Paul Imps, Bernard Quémada, qui me prie d'ailleurs de l'excuser de ne pas pouvoir être venu. Quelles dates sont à retenir? J'irai très vite. 1957, Strasbourg, un colloque. La fine fleur des romanistes est présente. Mais aussi Paul Robert. 1959, et bien sûr Bernard Quémada pour l'aspect technique, pionnier. 1959, le général de Gaulle souhaite donner un nouveau souffle au CNRS. Il manquait un grand projet du côté des sciences humaines. Le trésor de la langue française serait ce grand projet. 1961, l'achat du Gamma 60 Bull. L'informatique est là, très vite, du côté d'un dictionnaire institutionnel. Et évidemment, on va donner un sel particulier et un corpus extraordinaire à ce dictionnaire. Les sept premiers volumes sont dirigés par Paul Imps, 71-79. Le laboratoire CNRS a donc un atout redoutable avec des millions d'occurrences, des millions de mots enregistrés dans ce Gamma 60 bulles. C'est une grande aventure qui se poursuit, je ne vais pas aller plus loin. Jean-Marie Pierrel, qui a pris la succession en quelque sorte du côté du dictionnaire électronique, nous expliquera tout à l'heure cette aventure. Au total, si on s'intéresse au grand dictionnaire, c'est une extrême richesse qui est proposée aux Français. Cinq dictionnaires français de plusieurs volumes consultables dans les années 1970. Le Grand Robert, le Grand Larousse de la langue française, le Trésor de la langue française, le dictionnaire de l'Académie française qui, à partir de 94, a déjà sa 9e édition. Il y a ici d'ailleurs les premiers éléments. Le grand dictionnaire encyclopédique Larousse aussi, qui de 1960 à 64, avant que n'arrivent d'autres grands dictionnaires de langue, représentait une très belle image de la langue française, avait été fondé sur plus de 400 000 cartes perforées, et lui aussi se situait dans une grande dynamique déjà technologique. Une autre remarque, c'est que les dictionnaires institutionnels et les dictionnaires de l'entreprise privée sont ici non pas en concurrence, mais en complémentarité. Et il est bon d'expliquer un petit peu la différence entre ces dictionnaires de l'institution et ces dictionnaires de l'entreprise. Le dictionnaire de l'institution n'est pas vraiment rentable. L'Académie française n'a pas pour objectif d'être rentable dans son dictionnaire. Le TLF ne l'était pas. Peut-être le deviendra-t-il, mais sur le nombre d'années, le nombre de personnes qui ont travaillé, c'était difficile. Mais c'est aussi un énorme avantage par rapport à un projet particulier qui ne correspondait peut-être pas d'emblée aux attentes du public, qui était un projet scientifique, comme celui de l'Académie, a aussi son fondement depuis 1694, qu'une entreprise privée aurait peut-être du mal à mettre en place compte tenu des attentes du public, qu'il faut toujours satisfaire, mais qui parfois ne sait pas non plus ce dont il manque. Du côté de l'entreprise privée, on a aussi des éditions annuelles, millésimées, un dynamisme extraordinaire entre Larousse et Robert, et par conséquent une photographie permanente de la langue française. On a des idées révolutionnaires sur le plan technologique. Ici, on sent bien que le dictionnaire qui vient de sortir chez Larousse avec un crayon optique est une véritable révolution aussi technologique. De l'autre côté, on a le CNRS, le dictionnaire par exemple d'Annie Mollard-Desfours sur les couleurs, le rouge, le rose, le noir. Ce sont des projets très spécifiques que seules les institutions comme le CNRS ou bien l'Académie française peuvent tenter, peuvent lancer. Bien sûr, l'entreprise privée peut le faire aussi, mais elle a son créneau aussi. Très vite, les petits dictionnaires révolutionnaires aussi, et je ne fais faire que les énumérer, c'est le dictionnaire du français contemporain qui correspond à la vague structuraliste, Jean Dubois, Claude Dubois, avec une perception différente du mot qui fait qu'on considère qu'il n'y a pas un mot comme clou avec plusieurs sens, mais qu'il y a plusieurs mots clous, celui que l'on plante, celui sur lequel on pédale, le clou du spectacle qu'on applaudit. Comme il y a des distributions différentes, on dit que ce sont des dictionnaires, c'est des mots différents. Une reprise et une innovation, le micro-Robert, le Robert méthodique, le brio. Ce sont là des dictionnaires qui ont pour objectif de représenter les éléments morphologiques de la langue. En découvrant d'ailleurs que l'Académie y avait songé, puisque sa première édition correspondait à un dictionnaire présenté par Racine. Les dictionnaires d'apprentissage aussi, chez Larousse ou chez Robert, qui sont en quelque sorte pionniers dans la mesure où on y essaie des définitions qui soient données après l'exemple, ce qu'on a appelé la glose définitionnelle. Ça n'a pas vraiment eu un plein succès, on a vu les écueils, mais c'était une expérience intéressante. Cinquième et dernière approche, donc, le souffle informatique, avec une nouvelle ère qui commence dans la dernière décennie. Et là, une opposition s'est installée grâce à Bernard Quémada entre ce qu'il a appelé la lexicographie et la dictionnérique, qui vaut aussi bien pour l'entreprise que pour le dictionnaire institutionnel. Cette distinction, c'est de souligner qu'il y a d'un côté, à partir du moment où l'informatique est présente partout et offre des avantages énormes et dans la diffusion et dans les travaux, il y a d'un côté la recherche sur des ensembles de mots, c'est la lexicographie. Une recherche qui a une volonté scientifique, qui ne cherche pas à être publiée dans un premier temps, qui peut ne pas être publiée, qui peut être sur ordinateur consultable. Et que ce soit au CNRS, à l'Académie, ou chez Larousse ou Robert, il y a une lexicographie forte, une recherche. Et puis il y a la dictionnérique. C'est un mot de Nodier, c'est un mot qui déplaisait, mais Charles Nodier l'utilisait déjà au 19e. La dictionnérique, en tant que dictionnariste, mais la dictionnérique, c'est la diffusion. C'est le public à trouver. C'est, en quelque sorte, bien mettre en place un objet qui va séduire, qui va plaire, qui va être utile. C'est aussi un métier, ça fait partie, bien entendu, du dictionnaire, c'est son complément. Je crois qu'il n'y a pas de bonne dictionnérique sans excellente lexicographie, et il n'y a pas de bon dictionnaire sans une transparence, sans une complémentarité forte entre la lexicographie et la dictionnérique. Je n'insisterai pas, mais il est essentiel de comprendre que ce concept est très important aujourd'hui où l'informatique peut très vite décliner toutes sortes de produits très rapidement à partir d'une base de données et des produits qui peuvent ne pas être de qualité. Et c'est pour ça que j'ai préféré intituler l'entreprise privée prestigieuse, parce qu'elle a ses galons de lexicographie, ses galons scientifiques qui lui permet aussi, bien entendu, de produisant une très bonne dictionnairique. C'est aussi la lexicographie ressuscitée. La résurrection des dictionnaires patrimoniaux grâce à l'informatique. On sait que du côté des éditions Champion, comme des éditions Redon et Robert, il y a eu le dictionnaire de l'Académie française, les dictionnaires de l'Académie française sur CD-ROM, le dictionnaire de Ferro, le grand dictionnaire universel du 19e siècle, des ateliers historiques. Et c'est évidemment un beau signe que de voir sur un même site aujourd'hui le TLF, l'Académie et le dictionnaire de Ferro de 1787. Nous sommes vraiment au cœur de la lexicographie entre pérennité et métamorphose. Il y a la naissance de nouveaux ténors, je ne vais pas développer, nous avons le grand Robert Électronique, Laurent Cattache, ici présent, est un ténor de ce domaine, il a apporté énormément, aussi bien du côté de la lexicographie d'apprentissage que du dernier dictionnaire. Nous avons, avec Yves Garnier et toute son équipe chez Larousse, avec ce Larousse multimédia encyclopédique aussi, une perspective technologique de pointe. Avec le trésor de la langue française informatisée, il va en être question dans quelques secondes, on a une véritable renaissance, on a le plus gros dictionnaire du XXe siècle, accessible à la fois sur Internet, sur papier, Internet gratuitement, sur papier et sur CD-ROM, et les trois font bon ménage. Et l'Académie française sur Internet, qui, dans ce panorama, malgré l'image de tradition parfois lente qu'on lui a attribuée, eh bien, elle n'est pas du tout lente à donner immédiatement ses travaux en lien avec ceux du Trésor de la langue française et pouvoir consulter sur Internet les différentes éditions du dictionnaire de l'Académie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi le Québec avec un grand dictionnaire en gestation. Je vais conclure en rappelant qu'on a indéniablement un feu d'artifice lexicographique, dictionnérique aussi, maintenant que j'ai utilisé le mot, et peut-être un autre gros mot, métalexicographique, c'est-à-dire l'histoire des dictionnaires derrière les travaux de Bernard Quémada et de quelques-uns de ses élèves. Conclure, c'est peut-être provisoirement rappeler Pierre Bell dans la préface du dictionnaire universel de Furtière qui dit qu'un dictionnaire est un de ces livres qui peuvent être améliorés à l'infini. On le sent. Chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est une amélioration. Et cette année est tout à fait significative à cet égard. Boist disait aussi, seul Dieu peut faire un bon dictionnaire. Je crois qu'effectivement c'est à l'infini, et faire un bon dictionnaire fait partie des projets, c'est un objectif, on n'est jamais satisfait. Rappelez aussi un cortège d'événements récents pour montrer la vitalité. Le 23 mars, c'était hier à l'université de Cergy-Pontoise, c'était la 14e journée des dictionnaires. Avec 100 ans du petit Larousse oblige et 150 ans d'une maison d'édition. Le 6 octobre, à la Grande Bibliothèque de Montréal, c'était un colloque, toujours pour ses 100 ans, sur Pierre Larousse et les dictionnaires Larousse, tout le savoir du monde. Le 8 novembre, à la Bibliothèque nationale française, aux ateliers du livre, c'était une journée entière consacrée aux dictionnaires. Aujourd'hui, grâce à la MOPA, grâce à l'énergie, grâce aussi à l'Académie qui nous offre ce berceau de la lexicographie, en présence d'académiciens, le colloque, les dictionnaires français, une pérennité prestigieuse et des métamorphoses pionnières. Demain, le 22 mars 2006, 15e journée des dictionnaires, consacrée aux dictionnaires de l'institution, donc ceux de l'Académie et du CNRS, et uniquement, ouverte par Xavier North, avec des gens du Québec qui seront présents. Enfin, s'il était encore besoin de poursuivre la liste, une journée des dictionnaires créée en Allemagne en 2004 par Michaela Heinz, qui reprend en juillet 2006. Giovanni Dottoli, avec qui on va mettre en place, qui va mettre en place une grande journée aussi des dictionnaires en Italie. La conclusion s'impose, toutes ces manifestations incarnent la vitalité de la lexicographie. Elle est née ici, à l'Académie, je suis très ému de pouvoir ici en établir l'impressionnant bilan. 4 siècles d'Académie, des in quarto au support électronique. Nous sommes bien aujourd'hui dans la pérennité d'une tradition magnifiquement honorée, tout en ménageant de permanentes métamorphoses, avec pour constante servir à la langue. Que l'Académie et les entreprises prestigieuses soient remerciées d'incarner cette grande tradition, tout en l'offrant dans sa modernité. Merci.
Après Monsieur Jean Pruvot, c'est maintenant au tour de Monsieur Louis Forestier, professeur émérite à la Sorbonne, de s'exprimer dans ce colloque de la MOPA consacré aux dictionnaires. Il s'exprime sur les écrivains et les dictionnaires.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les dictionnaires sont des objets d'utilité publique. Tous les écrivains vous le diront, particulièrement ceux qui ont évoqué leurs toutes premières années et les tentations qu'exercent certaines armoires accessibles au prix de quelques tomes empilés. Particulièrement à la lettre C, comme convoité, cime, confiture, catimini, et pour finir malheureusement confisqué et contrition. Passons sur cette utilité primordiale et enfantine pour aborder un propos plus sérieux. Il me semble qu'on pourrait définir trois attitudes de l'écrivain à l'égard des dictionnaires. Il en est un utilisateur privilégié, il en est souvent un fournisseur, au même titre que la langue courante parlée, il en est parfois un auteur. Trois pistes que je vous propose de suivre trop rapidement, en compagnie de quelques auteurs choisis principalement dans le 19e et le 20e siècle. Jusqu'à une époque récente, les deux ouvrages auxquels les écrivains se reportent sont le dictionnaire de l'Académie et le littré. À l'occasion, le Bécherel. Nous avons même la chance de posséder un romancier qui a vu naître et grandir l'une de ses trois réalisations. C'est Zola, qui était employé chez Hachette, alors que paraissait par livraison de 20 feuilles le littré dont il assurait la promotion en sa qualité de chargé du service de la publicité. Sa correspondance en 1863 ou 1864 nous le montre expédiant aux directeurs de journaux les fascicules successifs et s'assurant de leur réception pour compte rendu. Lui-même consacre deux grands articles à littré et à ce qu'il appelle, je cite, « un livre monument », une œuvre austère, bâtie à chaud et à sable, et dont les fondements sont largement assis. Fin de citation. Il salue le dictionnaire comme le triomphe de la méthode positiviste et, à l'occasion de la définition du mot « imagination », moins spiritualiste chez Littré que dans le dictionnaire de l'Académie, tire toute l'entreprise vers sa propre théorie de la méthode documentaire. Innombrables sont les écrivains qui témoignent de leur constant recours au dictionnaire. Prenons l'exemple de Flaubert. En 1878, il demande à son éditeur Charpentier de lui faire acheter chez Didot un exemplaire du nouveau dictionnaire de l'Académie française, et il précise en le soulignant, relié, et de le lui envoyer. Flaubert précise donc, relié, c'est qu'il faut un volume qui résiste à des consultations fréquentes. Lorsqu'il corrige Salambo, n'écrit-il pas en effet, je cite, « Je m'occupe actuellement à enlever les « et » trop fréquents et quelques fautes de français. Je couche avec la grammaire des grammaires. » Et le dictionnaire de l'Académie surcharge mon tapis vert. » Fin de citation. C'est que le dictionnaire donne la norme et l'assurance de parler et d'écrire une langue correcte. Il ne l'envoie pas dire à un obscur critique qui avait accusé Théophile Gautier d'avoir donné des pieds verts à sa momie, dans le roman de la momie, sous prétexte qu'il les avait comparés au jaspe. Vous avez confondu le jade et le jaspe, tempête Flaubert, et de renvoyer l'ignorant au dictionnaire de l'Académie afin de constater, définition en main, qu'il existe bien du jaspe blanc. Gide n'est pas en reste. Nous le surprenons s'interrogeant sans cesse à travers son journal sur les définitions de littré, les disséquant, les analysant, les discutant parfois, s'y soumettant le plus souvent et corrigeant ses œuvres en conséquence. Il pointe ainsi le tour personnel « J'ai lieu de » et s'en déclare choqué, ajoutant du bout des lèvres « Encore que Littré semble l'admettre. » J'ajoute que Gide, par une originalité toute personnelle, attend du dictionnaire non seulement la norme grammaticale, mais encore la règle d'élocution. Il s'insurge contre ceux qui prononcent « hollandais » et voix ferrée, et s'écrit, je cite, « qu'ils consultent Littré, ils y verront comme on doit prononcer ». Et de fait, j'y lis la prononciation figurée suivante, « hollandais » et non pas « hollandais ». Plus largement, le dictionnaire est le réceptacle de tous les mots au moyen desquels l'individu, et d'abord l'enfant, se constitue un ordre et des repères. Robert Léon Wagner l'a très bien indiqué dans sa belle préface au Dictionnaire des mots sauvages de Maurice Reims. Dans son discours sur les lettres françaises, Claudel ne dit pas autre chose en rappelant que le but de l'écrivain est, je cite, de substituer à la sensation animale un regard ordonnateur, dominateur, créateur. Fin de citation. Le mot porte avec lui une puissance d'image, de sorte que le dictionnaire qui aligne ces mots devient à son tour un immense réservoir de rêveries et d'imprévus. Quelle merveille de trouver plutocrate entre plongeon et plumard. Comme si le dictionnaire avait ordonné dans sa sagesse alphabétique que la déconfiture attendait les riches qui s'endorment, ce que contredit au demeurant la sagesse des nations. Existe-t-il une âme, une vision des dictionnaires qui, entre poker et politique, place polisson? Non, sans doute, mais il n'est pas interdit de s'amuser un peu et de trouver dans la lecture du dictionnaire un plaisir autre que de règles et d'informations. C'est ainsi que j'éprouve toujours une vraie joie à parcourir les articles pugnaces et les exemples parfois drôles du grand dictionnaire encyclopédique du XIXe siècle de Larousse. Je cherche un éclaircissement de 20 lignes et je lis 20 pages. C'est précisément ce pouvoir d'imagination suscité par les mots qui détermine la seconde attitude des écrivains à l'égard des dictionnaires. Ils en sont en quelque sorte les fournisseurs et pour ainsi dire les enrichisseurs. Pardonnez-moi en cet endroit approprié un néologisme que vous ne trouverez ni dans le dictionnaire de l'Académie, ni dans Larousse, ni même dans le supplément du Robert. L'écrivain ne doit pas hésiter à créer tel mot viable dont l'usage s'empare et que le dictionnaire avalise ensuite. Ainsi, Gide cite une phrase de Proust dans laquelle l'auteur de La recherche du temps perdu emploie le verbe « réaliser » dans un sens nouveau proche de « bien comprendre ». Égide d'ajouter, je cite, « Il semble que Proust, en dessinant ainsi les contours du mot, ait eu souci de préparer un exemple pour l'itré. » Et il ajoute « le mot vivra ». Il exprime, et fort bien, une idée dont il semble aussitôt qu'on ne puisse pas plus se passer que de ce mot qu'il a créé. Fin de citation. Ce mot, avec cette signification, n'est pas entré dans l'itré, bien sûr, mais il n'a pas échappé à la perspicacité du Robert, qui, sous le quatrième mot de la notice réalisée, cite précisément ces importantes remarques de Gide. Certaines époques ou certains écrivains sont, plus que d'autres, des enrichisseurs du dictionnaire. Citons par exemple le temps du symbolisme ou des auteurs plus proches que nous, comme Céline, Queneau, grâce à qui je salue l'Oulipo, ou Michaud, et d'autres à qui nous devons flonflonner, jouer de la musique populaire, Locdu, homme de peu, ou Barfrure, repas pantagruélique. Et que dire de ce mot franglais, inventé par Étiamble, passé dans l'usage et adoubé au supplément du Robert. Ces écrivains créatifs qui enrichissent notre vocabulaire, mais qu'ils s'ils versent dans l'excès, risquent de devenir incompréhensibles, sont parfois prétexte à l'existence de dictionnaires spécialisés. J'ai cité en passant le régalant dictionnaire des mots sauvages de Maurice Reims, qui date de 1969. On pourrait y ajouter le petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes que Jacques Plovert composa en 1888, ou le dictionnaire abrégé du surréalisme qu'Éluard et Breton élaborèrent en 1938. Avec ce dernier ouvrage, nous passons dans l'ultime chemin sur lequel nous ne pourrons guère flâner, faute de temps, voyez encore, comme temps s'inscrit entre tempo et tentative. Essayons de garder le rythme. Si tous les écrivains utilisent le dictionnaire, quelques-uns rêvent d'en fabriquer et même y parviennent. Je ferai d'abord référence à Paul Valéry. Il est un exemple privilégié, puisque son appartenance à l'Académie le mettait en situation d'élaborer un dictionnaire. Il est admirable de voir avec quelle application il s'est adonné à sa tâche. Il nous raconte comment, durant plusieurs séances, il occupe la commission avec la définition du mot « vie » qu'il trouve jusqu'ici, je cite, « ridiculement défini ». Et comment il suggère de demander à Bergson une définition jugée aussitôt trop matérialiste par le cardinal Baudrillard. Ailleurs, on le voit esquisser une définition du mot « nombre » qui suscite des objections de la part d'Henri Poincaré. Celui-ci, selon Valéry, considère la notion dans sa plénitude actuelle et non dans sa formation graduelle. Mais il y a mieux. Chez l'écrivain des cahiers que cette activité pratique. Tout au long de son existence, il réfléchit à ce qu'est et à ce que devrait être un dictionnaire. Il devrait, par exemple, favoriser l'association des idées autant que la succession des mots. Et il écrit « Si j'avais été à l'Académie, au temps où l'on a recommencé le dictionnaire, j'aurais demandé que l'on procédât par catégorie de mots avant de passer à l'exécution par ordre alphabétique. » Valéry écrit encore, je cite, « Si je faisais un dictionnaire, et que fais-je autre chose dans ces notes, je ferais des tables, des mots qui se tiennent et forment un système implicite. » Fin de citation. Ailleurs, il trace ce titre, des questions au dictionnaire, qu'il développe ainsi, je cite, « Le dictionnaire répond à la question « Que signifie tel mot ?» Il ne répond pas à l'inverse « Quel est le mot qui signifie telle chose ?» Il y a des dictionnaires du mot vers l'idée, il n'y en a pas de l'idée vers le mot. Fin de citation. De telles réflexions reflètent la nature organisatrice et associative de la pensée de Valéry. Aussi peut-il finalement affirmer en 1929 « Mon système est un dictionnaire ». Certaines époques, celles qui sont davantage atteintes de boulimie encyclopédique ou de mirage scientiste, sont plus spécialement séduites par les dictionnaires. Aussi Rousseau blâme-t-il, je cite, « ces compilations ridicules que la mode, ou plutôt la manie des dictionnaires, multiplie de jour en jour », fin de citation. En foi de quoi il s'empresse d'écrire aussitôt lui-même un dictionnaire de musique qui date de 1768. Or, cette œuvre n'est pas seulement entreprise dans le souci de rassembler la totalité, si possible, des termes musicaux, elle obéit aussi à un dessein polémique. D'une part, se démarquer de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, d'autre part, corriger les inexactitudes du dictionnaire de l'Académie, ce que Rousseau ne manque pas de faire remarquer explicitement en maintes occasions. Ainsi, le dictionnaire peut échapper à sa fonction normative et didactique pour remplir un rôle combatif. Victor Hugo, sans qu'il ait réellement fait de nouveaux dictionnaires, se vantait-il pas d'avoir coiffé l'ancien d'un bonnet rouge, j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, etc. Dans ce domaine, je n'évoquerai pas certains articles partisans et bien connus du Grand Larousse du XIXe siècle. Je retiendrai deux exemples de dictionnaires délibérément conçus comme des œuvres de combat. Le premier ne nous reste que comme un projet longtemps caressé et publié seulement après la mort de son auteur, c'est le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Il l'avait imaginé comme un répertoire de la bêtise humaine destiné à partir en guerre contre la paresse intellectuelle. Dans ce livre, disait-il, je cite, « Je pourrais à peu près dégoiser ce que j'ai sur la conscience d'idées critiques. » Fin de citation. L'autre exemple est bien connu. Il s'agit du dictionnaire philosophique de Voltaire. La succession d'entrées alphabétiques permet de disperser, sans les atténuer, des attaques qu'un exposé en forme eût rendues infiniment plus visibles et dangereuses pour leur auteur. D'habiles renvois d'un article à l'autre éclairent et oriente suffisamment le lecteur pour que ce dictionnaire devienne une arme redoutable de la propagande philosophique. Je signalerai enfin que certains auteurs utilisent la forme du dictionnaire pour donner à leur exposé un tour volontairement dépourvu de composition logique, soit qu'ils veuillent mimer un certain caractère décousu et primesautier de la pensée livrée elle-même, comme dans le récent dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Danzig, soit qu'ils ne veuillent livrer que des suggestions volontairement éparses, à charge pour le lecteur d'en reconstituer la cohérence, comme dans les improvisations sur Rimbaud de Michel Butor, conçues comme un dictionnaire. On le voit, malgré le caractère très cursif de cet exposé, l'attitude des écrivains à l'égard des dictionnaires est riche, variée, voire contradictoire, puisqu'elle va de la révérence respectueuse à l'utilisation iconoclaste. Et comme Charles Danzig, que je viens de citer, nous assure que chaque bébé naît en France avec un dictionnaire, il y a beaucoup d'avenir pour le sujet que nous traitons.
Après M. Louis Forestier, que vous venez d'entendre, c'est M. Aurélien Boivin, professeur de littérature à l'Université Laval de Québec, qui s'est exprimé lors de ce colloque sur le thème « Le dictionnaire des œuvres du Québec ».
Monsieur le Président, chers amis de la MOPA et de l'Institut, chers amis, je remercie M. le Président Treffel de m'avoir invité si gentiment à participer à ce colloque sur les dictionnaires. Je serai donc le seul parmi les collègues participants ou communicants à avoir l'accent différent, celui du Québec. Je ne vous parlerai pas de la langue parlée au Québec, ni de la langue en général, mais d'un dictionnaire, le dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, des œuvres qui sont écrites en français, un français qui nous est parvenu de par nos origines françaises, mais que nous avons soigneusement protégé. Je suis donc heureux, en tant que directeur des tomes 7 et 8 du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, le 8e volume est en chantier depuis juin 2004, de co-directeur du tome 6 et de chercheur principal des tomes 1 à 5 inclusivement, d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette rencontre consacrée au dictionnaire. C'est un honneur pour moi qui ai eu le bonheur de faire partie d'une équipe dynamique qui, au cours des 35 dernières années, a patiemment préparé un instrument de travail essentiel. Cette série d'ouvrages, bientôt 8 donc, témoigne à coup sûr de l'importance de la littérature québécoise, reflet de la nation qui l'a produite. Cette littérature s'est timidement démarquée de la grande littérature française à partir du dernier tiers du 19e siècle, grâce à l'action et à l'engagement d'un groupe d'intellectuels canadiens-français, comme on disait alors, et qui s'est développé de manière autonome à partir surtout des années 1940-1945, à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, elle est devenue une littérature qui a su faire sa marque à travers toute la francophonie. Il ne se passe rarement une manifestation, un congrès, un colloque ou une conférence sans que cette littérature soit représentée, débattue, étudiée. Parce qu'il établit soigneusement, j'allais dire scientifiquement, le corpus des œuvres littéraires du Québec selon la période que couvre chaque tome, parce qu'il rend compte de la production littéraire depuis les récits fondateurs des explorateurs, découvreurs, voyageurs, missionnaires, jusqu'aux récents textes publiés en 1990, le DOLQ, comme on l'appelle, est devenu rapidement un instrument incontournable pour quiconque veut connaître la production littéraire du Québec et sa spécificité par rapport aux écrits parus à la même époque ailleurs dans le monde. Les articles présentés par ordre alphabétique de titre à l'intérieur d'une période donnée renseignent encore sur l'imaginaire des auteurs québécois, quel que soit le genre pratiqué,
sur leur vision du monde, sur les valeurs qu'ils défendent, soutiennent, mettent de l'avant dans leurs œuvres. Il peut encore servir de point de comparaison avec les autres littératures et cultures francophones, par exemple, et il suffit de le feuilleter d'un tome à l'autre pour s'en rendre compte. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le DOLQ que la critique a qualifié tantôt de monument, tantôt d'ouvrage indispensable, de pierre à la cathédrale de la littérature, d'œuvre éminemment utile, vous me permettrez d'en faire une brève présentation avant d'en préciser l'apport important dans la reconnaissance de notre littérature et de notre culture. Je terminerai en m'attardant rapidement aux retombées de notre travail, dit dans le jargon du métier de recherche fondamentale. Amorcé à Québec en 1971 par le professeur Maurice Lemire de l'Université Laval, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec en est déjà à son 8e volume, qui couvrira cette fois les œuvres littéraires publiées entre 1986 et 1990 dans les 4 principaux genres, soit le roman, conte et nouvelles, la poésie, le théâtre et l'essai. Pour réussir une telle entreprise, une entreprise d'une telle envergure qui nous identifie comme peuple distinct parmi tant d'autres peuples, à la fois des Amériques et du reste du monde, et qui traduit notre différence et partant notre diversité dans la grande communauté des nations, il nous a fallu au départ créer nos propres instruments de travail. C'est ainsi que nous avons dû, dans un premier temps, procéder à un inventaire systématique, voire exhaustif, de toute la production littéraire québécoise depuis l'époque coloniale, incluant des œuvres françaises comme les briefs récits du navigateur et explorateur malouin Jacques Cartier, publié à Paris en 1545, les voyages du sieur de Samuel de Champlain, Saint-Onjois d'origine, publié en 1613, 5 ans après qu'il eut fondé Québec, dont on célébrera en 2008 le 4e centenaire, en passant par les relations des Jésuites, dont la publication s'échelonne de 1632 à 1673, jusqu'au grand voyage du pays des Hurons que le frère missionnaire et collègue Gabriel Théodore Sagard publie peu après son retour en France en 1632, jusqu'aux œuvres publiées en 1990. Ces œuvres sont regroupées par période, selon un découpage précis, soit des origines à 1900 pour le tome 1, de 1900 à 1939 pour le tome 2, de 1940 à 1959 pour le tome 3. Le tome 4 est consacré aux œuvres publiées entre 60 et 1969, et chaque volume depuis le tome 5 couvre une période de 5 ans seulement en raison de la prolifération des œuvres littéraires publiées à partir de 1975. Le tome 5, la période de 1971-75, le tome 6, 76-80, et le tome 7, celle de 81-85. Quant au tome 8, on l'a déjà dit, il sera consacré aux œuvres parues entre 86 et 1990. Chaque tome compte plus de 1200 pages et comporte une introduction générale et une présentation de chacun des grands genres de la période qui précise les contextes de production et de réception des œuvres, en plus de fournir les principales caractéristiques des genres et leurs thématiques. Suit une chronologie détaillée des principaux événements littéraires, culturels, politiques et sociaux au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis et dans le monde, ce qui permet de voir d'un rapide coup d'œil ce qui se passe d'un pays à l'autre dans une année précise et ce qui y est publié aussi. Quant aux analyses des œuvres retenues, distribuées selon l'ordre alphabétique, on l'a dit, elles sont confiées en majorité à des spécialistes reconnus, recrutés un peu partout dans les universités et collèges du Québec, ainsi que dans diverses institutions à travers le monde. Ces notices situent l'œuvre dans la carrière de l'écrivain, précisent ses conditions de production, fournissent toujours un résumé de l'intrigue dans le cas d'un roman ou d'une pièce de théâtre, et insistent sur la problématique, précisent la thématique et éclairent le lecteur ou la lectrice sur l'organisation, par exemple, du recueil de contes, de nouvelles ou de poésie, et dans le cas de l'essai, les collaborateurs s'attardent à l'argumentation, à l'esthétique, à la thématique, à la langue, entre autres sujets. Ces collaborateurs reçoivent en même temps qu'un contrat, qui nous libère bien sûr des droits, un carnet de renseignements qui leur explique la démarche à suivre. Chaque œuvre est l'objet d'un jugement critique de la part du collaborateur ou de la collaboratrice qui en caractérise les qualités esthétiques et stylistiques, voire, au besoin, les aspects moins réussis, tout en évitant la louange excessive ou le dénigrement systématique. Ces œuvres, qui ne sont pas toutes d'égale importance, ne reçoivent pas le même traitement dans chacun des tomes de notre dictionnaire. Les plus significatives, celles qui ont marqué le genre ou la période, sont classées en première catégorie et ont ainsi droit à une entrée de 3000 mots et plus. Une échelle décroissante s'applique aux œuvres de moindre importance, la notice la plus courte comportant tout au plus 250 mots. C'est donc dire que l'étape de classification ou de catégorisation des œuvres exige une vaste consultation de la part des membres de notre équipe, qui n'hésite pas à mettre à contribution des spécialistes externes dont le rôle est de nous aider à sanctionner notre classement ou à le corriger au besoin. Voilà qui exige encore une abondante correspondance avec tous ceux et toutes celles qui acceptent de nous prêter main forte. Ces analyses sont suivies d'une bibliographie comportant deux volets. Dans le premier sont données les descriptions bibliographiques de l'édition Printschep de l'œuvre analysée et, au besoin, toutes les rééditions de l'œuvre en français, bien sûr, mais aussi en traduction. Je ne surprendrai personne en précisant que la bibliographie du roman Maria Chapdelaine de Louis Aymond, dont l'analyse figure dans le tome 2, puisque le célèbre roman du romancier brestois a été publié pour la première fois en 1914, d'abord en feuilleton dans le temps à Paris, au début de l'année 14, puis en volume à Montréal 2 ans plus tard. Donc, cette bibliographie dresse la liste de 160 éditions et même un peu plus dans au moins 25 langues. C'est donc dire que les bibliographies sont le fruit de patientes recherches dans les bibliothèques et les archives, et ces biblios se veulent exhaustives et exigent un travail important qui nécessite du flair, de la chance, de la patience aussi, car ce qui manquait chez nous, c'était justement les bibliographies, tant les bibliographies courantes que les bibliographies rétrospectives. Dans le deuxième volet de la bibliographie qui accompagne chaque article, est fournie par ordre alphabétique d'auteur la liste des études, articles ou comptes rendus publiés dans les journaux, revues et recueils, sans oublier les monographies, thèses, mémoires consacrées à cette même œuvre ou à l'auteur. C'est donc dire que nous nous sommes aussi donnés pour tâche de reconstituer la réception critique des œuvres en procédant au dépouillement systématique des périodiques parus au Québec ou ailleurs à chaque période. Une fois ces textes identifiés, nous les avons photocopiés et classés, et cette documentation de première main est mise à la disposition des chercheurs de tous horizons, de toutes disciplines, dans notre centre de recherche, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la littérature et la culture québécoise. Un tel dépouillement quasi exhaustif, une telle cueillette d'informations, nous a permis d'ajouter à la fin des analyses les plus importantes un court passage éclairant l'utilisateur ou l'utilisatrice sur l'accueil de la critique, accueil ponctuel au moment de l'apparition de l'œuvre analysée, mais aussi un accueil historique puisque nous insistons sur l'évolution de la critique quand l'œuvre a eu droit à la réédition et a fait l'objet par la suite de mémoires, de thèses ou d'articles savants. Figure encore à la fin de chacun des tomes une volumineuse bibliographie de plus de 5000 références dans certains tomes, constituée à partir des œuvres publiées au cours de la période, qui se limite ici toutefois à la première édition, car la liste des rééditions d'une œuvre figure déjà dans la bibliographie qui accompagne chaque œuvre analysée dans l'un ou l'autre tome du DOLQ. Toutes ces bibliographies ont cela de particulier qu'elles se veulent scientifiques, c'est-à-dire qu'elles respectent les règles de la bibliographie qui, pour un bibliographe comme moi, est une véritable science. De plus, ces bibliographies sont préparées volume en main pour éviter toute erreur possible, car c'est un secret de polichinelle. Plusieurs de nos collègues chercheurs ne se préoccupent pas autant que nous de la précision de ces données bibliographiques, pas plus d'ailleurs de l'exactitude ou de la justesse des citations qu'il nous faut soigneusement vérifier avant de publier. À cette bibliographie des œuvres de chaque période est greffée une autre bibliographie, celle des études à consulter. Cette dernière est répartie selon 4 volets ou parties, les instruments de travail et les ouvrages généraux de référence. Deuxièmement, les volumes et chapitres de volumes qui traitent des œuvres ou des auteurs. Troisièmement, les mémoires et les thèses présentées dans diverses universités, tant québécoises que canadiennes et même mondiales. Quatrièmement, les articles de journaux et de revues portant non pas sur une œuvre donnée, parce que ces articles-là apparaissent à la fin de chacune des analyses, mais bien cette référence apparaît dans la bibliographie, donc, mais sur un thème, une école, un genre ou un groupe d'auteurs, par exemple. Chaque tome du DOLQ rend donc compte de la production littéraire québécoise d'une période, de l'impact de ses œuvres dans l'évolution de notre littérature, de leur apport tant littéraire que thématique ou sociologique, sans oublier celui de l'imaginaire des auteurs et de leur vision du monde. Écrit dans une langue accessible à un lecteur moyen, en éliminant tant se faire que peu le langage hermétique ou un vocabulaire trop savant, pour ne pas dire un jargon, compris des seuls grands spécialistes ou théoriciens, chacun des tomes veut rejoindre une vaste clientèle, celle des professeurs et des étudiants, les premiers destinataires, mais aussi les intellectuels et les simples amateurs, voire le public en général, donc qui tous peuvent ainsi y trouver une foule de renseignements utiles en un tour de main. L'un et l'autre des 7 tomes publiés jusqu'à maintenant est une preuve tangible, non seulement de la richesse de la littérature québécoise, mais aussi de la diversité qui l'anime par rapport à d'autres littératures nationales que notre dictionnaire permet de mettre en parallèle selon les thèmes abordés, selon l'écriture, l'imaginaire, l'argument et que sais-je encore. De plus, dans l'un et l'autre volume, à partir surtout du 4e, les responsables ont décidé de faire une large place aux écrivains allophones. Le Québec, on le dit et on le répète, est devenu depuis une trentaine d'années et même un peu plus une terre d'accueil, une grande mosaïque interculturelle, c'est-à-dire donc à tous ceux et celles qui ont choisi d'écrire en français et ainsi d'enrichir notre littérature et de manifester ouvertement dans leurs œuvres cette spécificité, cette différence. Chaque tome est devenu un instrument indispensable pour assurer la diffusion et contribuer à la reconnaissance de notre littérature et de notre patrimoine littéraire, non seulement au Québec, mais aussi à l'étranger. La riche documentation accumulée d'un tome à l'autre est accessible aux chercheurs, professeurs, étudiants et vaste public qui peuvent fréquenter le site web de Lille comme Lille, c'est le nom du site, où une grande partie de cette documentation est indexée sous l'adresse www.littérature-sans-accent.com. En collaboration avec l'Union des écrivains et des écrivaines québécois, l'UNEC, et le DOLQ participe grandement de la popularité sans cesse croissante de la littérature québécoise, qui jouit d'une visibilité de plus en plus grande à travers la francophonie, mais aussi dans d'autres cultures. Il rend des services énormes aux professeurs, étudiants étrangers, qui ne peuvent pas toujours compter sur toutes les œuvres de la littérature recensées dans chacun des tomes et qui y trouvent, d'un tome à l'autre, des analyses et des renseignements de toute première main. À ses débuts, en 1971, le projet du DOLQ s'inscrivait dans ce que l'on pourrait appeler la quête identitaire du peuple québécois, quête qui est un des thèmes dominants de la littérature québécoise depuis des décennies. C'est un projet rassembleur, en même temps qu'essentiel, car il a permis à un groupe de chercheurs de tenter ce que d'aucuns ont qualifié d'exploit, se livrer, une fois pour toutes, à une lecture systématique de toutes les œuvres littéraires publiées au Québec depuis la venue des premiers explorateurs français. Cette lecture n'avait jamais été faite, pas même pensée. Évidemment, certains spécialistes ou certains professeurs ont jugé très sévèrement notre initiative en prétendant que devant le nombre si restreint d'œuvres, nous aurions vite fait le tour, allant même jusqu'à soutenir, sans même oser rire, qu'un seul tome suffirait pour rendre compte de toute la production. Nous en sommes rendus à la rédaction, et je l'ai déjà mentionné, du 8e tome, et nous avons dû renoncer malgré tout à cette exhaustivité que nous avions recherchée dans les 2 premiers tomes, tant les œuvres sont devenues trop nombreuses pour pouvoir tenir compte de toute la production, car d'après les statistiques récentes, les Québécoises et les Québécoises seraient parmi les nations linguistiques qui produisent le plus grand nombre d'œuvres littéraires, en particulier en poésie per capita dans le monde. Si notre plus grande difficulté a été l'absence de bibliographie dans chacun des genres littéraires, Il nous a fallu nous interroger sur la notion de littérarité ou du terme littéraire qui figure dans le titre de notre dictionnaire. Car nous nous sommes vite rendus compte que le terme varie d'une époque à l'autre. Ce qui apparaissait comme littéraire aux littérateurs du 19e siècle, par exemple, ne l'est plus nécessairement en 1980 ou en 1990. Si personne ne nous a reproché l'inclusion dans le tome 1 de l'histoire du Canada sous la domination française de l'historien national François-Xavier Garneau, publié en 4 volumes entre 1845 et 1852, ou d'avoir inclus dans le tome 2 celle de la Flore Laurentienne du frère Marie-Victorin, publié en 1935, nous n'avons retenu dans les tomes suivants aucune histoire du Canada ou du Québec, aucun ouvrage de sociologie ou d'anthropologie, aucun traité de botanique, etc., parce que la notion de littérarité n'était plus la même. Si avant 1940, on considérait comme littéraire un ouvrage portant, par exemple, sur les sciences sociales, il n'en est plus ainsi dans la société moderne. Et les sociologues risqueraient de protester, voire de nous en vouloir, en incluant leurs ouvrages dans un dictionnaire des œuvres littéraires. Un tel travail est exigeant, d'autant plus que notre but est d'établir soigneusement le corpus des œuvres littéraires d'une période à l'autre. Voilà qui ne pose pas beaucoup de problèmes dans le cas du roman, des recueils de contes ou de nouvelles, de la poésie ou du théâtre, mais voilà qui est tout à fait différent dans le cas de l'essai. L'inclusion ou l'exclusion d'un essai ou d'une œuvre donnée, maintenant que nous sommes obligés d'élaguer devant le nombre pour rencontrer les conditions d'édition, ne se fait pas donc sans discussion, parfois vivre. Il arrive souvent que les spécialistes de l'extérieur donc soient mis à profit. Le DOLQ a eu un impact significatif sur les études québécoises. D'abord, il a révélé à plusieurs professeurs, étudiants et étudiantes, voire à la population en général, la richesse de notre littérature qui n'avait rien, du moins le croyons-nous, à envier aux autres littératures compte tenu de la population parlant français au Québec, soit un peu plus de 6,5 millions, 7 millions. Ce fut un premier constat. Ensuite, le DOLQ a permis de redécouvrir des œuvres que l'on avait oubliées et qui pourtant s'avéreront des œuvres majeures par la suite. Ce fut le cas, par exemple, de certains recueils de contes ou de poèmes qui, après la publication du premier ou du deuxième tome, ont rapidement été réédités et remis en circulation. Car, troisièmement, le DOLQ a stimulé les rééditions qui se sont multipliées au Québec vers la fin de la décennie 1970 ou au début des années 1980, avec la publication, donc, des deux premiers tomes. Des maisons d'édition se sont lancées dans ce marché lucratif du livre de poche, emboîtant le pas aux éditeurs français et à l'éditeur québécois Fides de Montréal, qui avait compris depuis longtemps l'importance non seulement de ce marché, mais aussi celle de redonner au public lecteur des œuvres jugées majeures à une époque, mais disparues ou tombées dans l'oubli. Ces œuvres devenues des classiques sont désormais accessibles aux professeurs qui peuvent les enseigner en classe parce qu'elles sont désormais disponibles. Le DOLQ a aussi stimulé des étudiants et des professeurs qui ont fait de la littérature québécoise leur champ de spécialisation. La réponse n'est pas facile à donner parce que les bibliographies étaient enfin disponibles et permettaient tant celles qui portaient sur les genres que celles qui se rapportaient à la réception ou à l'accueil critique, souvent ponctuel, des œuvres. Le professeur ou l'étudiant n'avait plus à entreprendre de telles recherches. Il suffisait dorénavant d'entrer en contact avec nous ou de venir consulter nos archives mises à leur disposition. C'est ainsi que nous avons assisté et que nous assistons depuis le début des années 80 à une prolifération d'études, de mémoires, de thèses, de doctorats, d'ouvrages portant sur la littérature, sur un auteur ou sur un groupe d'auteurs, sur une ou plusieurs œuvres regroupées selon leur thématique, par exemple, leur structure, leur narration, la langue, etc. Le DOLQ est devenu un instrument incontournable pour quiconque donc s'intéresse à la littérature québécoise. D'autres publications sont encore redevables au DOLQ. C'est en effet au tournant des années 1980 que le Québec a connu la mise en marché d'un grand nombre d'anthologies, dans tous les genres et qui rend d'éminents services à une foule de personnes, tant des professeurs que des étudiants, tant des spécialistes que de simples amateurs. Ces anthologies s'accompagnent presque toujours d'une solide et utile présentation, d'une mise en contexte des extraits choisis, de la présentation des auteurs retenus, etc. À propos des auteurs, les chartes des droits et libertés tant du Canada que du Québec nous ont obligés à renoncer à rédiger la biographie des auteurs figurant dans notre dictionnaire. Jusqu'au tome 5, nous avions pu fournir à la première œuvre publiée d'un auteur une courte biographie rédigée selon un même canevas. Date et lieu de naissance, nom et profession des parents, école fréquentée, diplôme obtenu, profession exercée, principales œuvres publiées, prises et distinctions obtenues, date du mariage, etc. Mais bien sûr que bon nombre de ces renseignements sont maintenant considérés comme confidentiels et il ne nous est plus permis de les divulguer. Dieu soit loué, puisque maintenant, contrairement à ce qui se passait avant les années 60, avant l'avènement de ce que nous avons appelé chez nous la Révolution tranquille, les mariages sont devenus souvent éphémères et on dirait qu'il y en a de plus en plus qui ont décidé d'en faire des collections, ce qui n'était d'ailleurs déjà pas de tout repos lors de la rédaction du tome 5. Un autre apport du DOLQ, c'est d'avoir contribué, non pas seul, mais bien sûr en collaboration, à la diffusion de la littérature québécoise à l'étranger, dans les cursus de certaines universités, tant aux États-Unis qu'en Amérique du Sud, tant dans les universités européennes qu'asiatiques ou africaines. Il y a bien sûr encore des progrès à faire de ce côté, mais des percées significatives ont été réalisées et ont porté fruit, puisque nous recevons chaque année des étudiants et des professeurs étrangers désireux d'enrichir leurs connaissances en littérature québécoise qu'ils peuvent mettre en perspective ou en parallèle avec leur propre littérature. Le développement des littératures comparées a contribué aussi à cette meilleure représentation de notre littérature à l'extérieur du Québec. Notre entreprise, différente de celle de l'équipe du dictionnaire Lafont Pompiani, par exemple, qui ne retient que les œuvres majeures de la littérature française, a influencé d'autres équipes. Depuis la publication de notre dictionnaire, des chercheurs africains de l'Afrique de l'Ouest réunis autour du professeur Ambroise Combe de l'Université de Yaoundé au Cameroun ont publié le dictionnaire des œuvres littéraires de langue française en Afrique du Sud du Sahara en 2 tomes. Le professeur Raymond Trousson de l'Université libre de Bruxelles a lui aussi pris le modèle du DOLQ pour co-diriger un dictionnaire, celle des lettres françaises de Belgique, publié en 4 tomes en 1988. Un problème demeure. Et il est de taille. Bien que la littérature québécoise soit une littérature dynamique, de grande qualité aussi, et reconnue au-delà des frontières du Québec, bien que des instruments comme le DOLQ soient disponibles, elle a peine à percer en France, au sein même de la population, parce que les éditeurs québécois n'ont pas ni la force, ni le pouvoir des éditeurs français, encore moins les créneaux dont ces derniers disposent, tels Larousse, Gallimard, Le Seuil, etc., pour ne nommer que ceux-là, afin d'en assurer une diffusion tous azimuts. Ce qui nuit à notre littérature, c'est la difficulté qu'elle rencontre à percer les marchés français et francophones. Les points de distribution des œuvres québécoises en France sont plus rares, à moins que l'auteur ou les auteurs aient publié en France, à Paris en particulier, lieu de consécration par excellence, dont rêvent bon nombre de nos auteurs. La diffusion de notre littérature en France repose presque exclusivement sur la Librairie du Québec à Paris, rue Gay-Lussac. À mon avis, si l'effort est plus louable, il est loin d'être suffisant pour assurer une meilleure visibilité de nos œuvres. Il faudrait que les gouvernements canadiens et québécois, que Patrimoine Canada et le ministère de la Culture et des Communications du Québec travaillent en concertation pour assurer une présence plus importante de nos œuvres en France, mais aussi dans les pays francophones. Les œuvres n'étant pas disponibles ou l'étant difficilement, les professeurs ne les mettent pas au programme. Je rêve du jour où la lecture d'une œuvre de littérature québécoise serait obligatoire à l'examen de l'agrégation. On pourra alors dire que notre littérature a réussi une percée majeure chez nos cousins au pays de nos ancêtres. Merci.
Vous venez d'entendre quatre des principales communications de cet important colloque organisé à l'Institut de France en décembre 2005 à l'initiative de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques, la MOPA, dont le président est l'inspecteur général Jacques Treffel.